Bonjour à tous, je suis Julien Leclerc. Merci de nous écouter dans l'émission Lecture sur MM Radio avec Angela Piotti.
MM Radio.
Un vendredi soir. Une énième fin de semaine passée à profiter des merveilleux espaces imaginés par Christian Lacroix et quelques ingénieurs, censés améliorer le confort des usagers si bien traités de la SNCF, dont j'ai le bonheur de faire partie. J'ai droit à un bout de table après une bagarre acharnée avec mon voisin d'en face pour délimiter la frontière que ne devront pas dépasser nos ordinateurs respectifs. J'ai perdu. Mon écran sera incliné vers le bas tout le reste du trajet. Les pieds priés de rester sagement loin sous mon siège, encouragés par le barbu qui ronfle à quelques centimètres de moi, je décide que toutes les conditions sont réunies pour sortir ma plus belle plume, ou plutôt, pour commencer à maltraiter mon clavier. Ceci n'est pas une autobiographie. Ce serait un peu prétentieux à l'âge qui est le mien, ma vie n'ayant pas, loin s'en faut, un caractère fondamentalement exceptionnel. Si je souhaite partager mon quotidien, c'est uniquement pour apporter une vision différente de ce que peut être la vie d'un dirigeant de PME, jeune ou moins jeune, dans un débat où syndicat d'un côté et grand patron de l'autre se partagent l'exposition médiatique. Une opposition de plus en plus marquée et chaque jour plus violente, au moins dans les mots qui sont utilisés. Les uns veulent défendre les intérêts des salariés, les autres gagner de l'argent. Comme si les deux n'étaient pas compatibles. Faut-il rendre ses salariés malheureux pour gagner plus? Faut-il toujours croire que son patron est un menteur qui, tel Picsou, a des dollars dans les yeux? C'est le fondement même de la lutte des classes, me répondra-t-on, à juste titre, sur un terrain idéologique. Mais il me semble que ce déterminisme, puisque c'en est bien un, a du plomb dans l'aile. Je ne me reconnais ni d'un côté ni de l'autre, ou peut-être justement un peu trop dans les deux. Je suis atterré quand des salariés se mettent en grève pour protester contre la mauvaise santé financière de leur petite boîte, déjà au bord du dépôt de bilan, comme cela me rend malade de voir un PDG quitter une entreprise en pleine période de licenciement économique avec quelques millions d'euros de primes en guise de cadeau de départ. Comme il me prend des envies de meurtre quand on entend que des ouvriers arrivent le lundi sur leur lieu de travail pour s'apercevoir que leur employeur a décidé de s'exiler aux îles Caïmans. Oui, ces types-là capables d'abandonner leurs salariés sur le carreau sont des salopards, osons le dire. Mais ces exemples exceptionnels au sens littéral du terme sont tellement loin de ce que vivent la plupart des patrons.
Alors pourquoi la lecture de cet extrait ?
Parce que je trouve qu'il installe bien le concept de ce livre et ce que j'avais envie de mettre en avant quand je l'ai écrit. Voilà, je trouve qu'il résume assez bien l'idée générale que j'ai envie de défendre, qui est d'abord et avant tout que l'entreprise, c'est pas juste un endroit où il y a la lutte des classes, et qu'une entreprise, ce sont des salariés et des dirigeants qui travaillent ensemble pour qu'elle se porte le mieux et pour qu'on y soit le plus heureux du monde possible. Ça paraît naïf à beaucoup de gens et pourtant je crois que ça devient une réalité de plus en plus tangible.
Ouais. Et puis aussi pour que le projet de votre entreprise puisse être amené à conclusion aussi, puisque vous avez un rêve, vous avez une idée, enfin du moins la personne qui a créé cette entreprise aussi.
Bien sûr, quelqu'un qui se lève un jour de son canapé et qui décide de créer une entreprise, c'est pas pour avec seule ambition de virer des gens le jour, ça ira pas bien, quoi. C'est clair. Et c'est souvent, malgré tout ce qu'on laisse entendre, c'est hyper récent. Hein. Libé a fait sa couve la semaine dernière patron, faites-vous plaisir, vous pourrez licencier à tour de bras, quoi.
Ouais.
C'est terrible. Je veux dire, faites-vous plaisir, mais c'est pas un plaisir de licencier.
Ouais.
Et vous avez raison, quelqu'un qui crée et qui se lève et qui prend ce risque-là, c'est avec une idée, avec une envie, avec une ambition. Et cette ambition, elle est de créer quelque chose de suffisamment pérenne pour pouvoir y vivre, pour pouvoir payer son propre salaire et pour pouvoir embaucher des gens derrière. Et après tout, on est quand même plus heureux quand en plus on arrive à vivre dans le bien-être et dans une bonne ambiance, quoi.
C'est clair, je confirme. Une de vos visites mensuelles à Paris, comment allez-vous?
Je vais bien, mais moi je sais même plus que ça, je viens
c'est vrai,
tous les 15
hein
jours en fait.
Ah oui, carrément.
Je fais une semaine sur deux à Paris.
Ok, planning chargé aujourd'hui?
Planning très chargé aujourd'hui, planning costaud, je suis un peu stressé, je vais à l'Elysée juste après.
C'est ça, on va parler tout à l'heure. Donc pourquoi cette nouvelle version 2017 de Chronique d'un salaud de patron? Bienvenue dans la vraie vie d'un patron de PME contre la première impression sortie en 2013.
4 ans après, d'abord, le sujet, il est toujours d'actu. Je pense qu'il sera encore d'actu dans 4 ans. Les PME représentent 99,9% des entreprises françaises et surtout ont créé 80% des jobs ces 20 dernières années. Aujourd'hui, les boîtes qu'embauchent sont des petites boîtes. Les grandes boîtes n'embauchent quasiment plus en France. Donc, comme on est toujours en train de parler d'emploi, il faut qu'on parle de plus en plus de ces PME. Ce sont elles qui relanceront éventuellement l'emploi demain. Donc ce sujet, il est toujours d'actu. Il s'est passé quand même beaucoup de choses en 4 ans. C'était un premier livre pour moi, chez un tout petit éditeur à l'époque qui avait cru. Et entre-temps, il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et c'était intéressant de le remettre au goût du jour avec une préface qui n'existait pas à l'époque. On a retranscrit un peu toute cette histoire-là. Mais le discours, il est complètement d'actu, quoi.
Vous avez changé des choses au niveau de l'écriture aussi. Vous avez rajouté des journées, des...
Non, pas à l'intérieur, ou quasiment pas. On a retouché 2-3 choses, mais... Mais voilà, peut-être des exemples qu'il fallait moderniser, mais encore une fois, on l'a relu, on s'est dit, mais c'est incroyable, quoi. On est totalement dans l'actualité. Après, je trouve quand même, je suis un optimiste de nature, je trouve qu'il y a un petit peu plus de place dans les médias qu'avant pour des patrons de PME. C'était vraiment pas le cas il y a 4 ans. Aujourd'hui, les médias sont assez contents quand même d'avoir des discours qui sortent un petit peu de la caricature, justement. Donc, je trouve quand même qu'on a avancé plutôt dans le bon sens. Je trouve aussi qu'il y a de plus en plus de chefs d'entreprise qui ont pris conscience qu'il fallait que leurs salariés soient heureux au travail. Donc, on va plutôt dans le bon sens, mais il reste encore beaucoup de boulot pour faire changer l'image, pour sortir des caricatures.
D'accord. Voilà. Donc, réimpression pour une plus grande distribution, du coup. Pas de changement à l'intérieur.
Quelques aménagements et une modernisation, donc ça vaut le coup d'aller regarder. Puis surtout, quand même, on a en revanche, on a écrit toute une partie qui n'était pas là avant. Notamment, on a retranscrit toute l'histoire depuis 4 ans avec pourquoi j'avais fait ça au départ, et puis après, qu'est-ce qui s'est passé. On a par exemple en 2014, donc ça c'était un an après la sortie du livre, j'ai fondé un mouvement qui s'appelait Déplumé. On était une trentaine de chefs d'entreprise à aller se mettre en slip devant le palais d'Iéna à conférence sociale. Alors c'est hyper d'actu, sachez que j'ai été reçu hier au Centre économique et social, au CESE, et donc on avait manifesté devant en slip. Donc 4 ans plus tard, ça y est, j'ai réussi à rentrer dedans et j'étais bien habillé. J'étais pas en slip. Voilà, donc on raconte un peu tout ça, toute cette histoire. Puis il y a eu un gros engouement médiatique autour de la sortie du livre. Donc je raconte un peu ça, comment on l'a vécu, ce qu'on a pu me retourner, quelques anecdotes. Enfin, tout ça, c'était pas dans le livre en 2013.
Et puis il y a un pigeon du coup maintenant sur la couverture.
Et maintenant il y a un pigeon. C'était moi, sur la première couverture, c'était moi qui était affalé sur mon bureau.
C'est ça.
Quand j'étais rentré, ma fille, qui avait à l'époque 7 ans, me dit: mais papa, tu dors au travail. Là, elle a vu, elle a dit: ah tiens, c'est pas ta tête cette fois.
Salaud est l'image que les Français ont des patrons, mais est-ce que vous pensez qu'il est obligé de devenir à un moment donné salaud face aux charges qui lui sont dues au patron?
Non, d'abord, c'est pas tous les Français. En fait, les Français, globalement, ils aiment bien leur patron. Mais ils sont assez d'accord sur le fait que les patrons, c'est pas toujours des gens bien. Alors, c'est quand même déjà, ça fait discussion, mais les études montrent qu'on est quand même. Il y a un vrai problème d'image d'après les 2/3 des gens. Donc, quand même, c'est un vrai sujet.
À part s'ils sont startupeurs, parce qu'il n'y a pas trop de distance.
Oui, alors vous savez, arrêtons-nous là-dessus, mais salaud de patron, c'est des termes qu'on m'a parfois reproché. Et il y a 4 ans, c'était clairement salaud qu'on me reprochait. C'est ce qui a fait, je pense d'ailleurs, que je suis pas sorti chez Erol à l'époque, mais c'était le terme salaud. Aujourd'hui, c'est le mot patron, et notamment toute cette génération d'entrepreneurs du digital que je côtoie, et qui sont, il y a beaucoup de gens géniaux, me disent: mais nous, c'est patron qui nous va pas, on n'est pas des patrons dans le sens paternalisme, c'est pas nous, quoi. Et ça, c'est assez intéressant.
Ils n'aiment pas utiliser ce mot-là. Pour eux, ils sont des employés, tout le monde peut devenir un boss.
Ils ont créé, on est des entrepreneurs, mais on n'est pas des patrons, je suis pas le père de mes salariés, je suis là pour donner une énergie. Après, est-ce qu'on est obligé de l'être? Je crois pas. Je crois qu'au contraire, quand même, un chef d'entreprise, il est garant de l'intérêt collectif. C'est-à-dire, quand vous avez un salarié qui vient vous faire une demande dans votre bureau et qui vous dit, par exemple, je voudrais une nouvelle chaise. Prenons la chaise, parce qu'il y en a plein autour de nous. Je voudrais une nouvelle chaise. Vous allez vous tout de suite réfléchir à, ok, collectivement, c'est quoi l'impact? Bien sûr que je veux bien que tu aies une nouvelle chaise, mais si je te donne une nouvelle chaise, je vais sûrement avoir, moi j'ai 45 salariés, je vais avoir 45 demandes demain. Est-ce que je suis en capacité de financer ces 45 chaises ou pas? Et donc c'est vrai, par moment on va dire écoute non. Alors qu'en fait, et j'ai une salariée un jour, alors c'était plutôt pour une augmentation, j'ai dit écoute, si je t'augmente là, il n'y a pas plus de raisons aujourd'hui que d'autres. Donc je peux pas, je suis pas en capacité financière. Et elle me dit ouais, mais moi, je dis oui, mais Je lui dis, tu sais, je dois penser à tout le monde. Et elle me répond, mais j'en ai rien à foutre de tout le monde.
Ouais, ouais, ouais.
Et je comprends en même temps, c'est pas, elle a raison, c'est pas tellement son problème, mais moi, c'est le mien.
Oui, c'est ça, la distance entre les employés et les employeurs, c'est que les employeurs pensent de façon globale et les employés, malheureusement, pensent de façon...
On est obligé, enfin malheureusement, on a quand même des gens, moi j'ai la chance d'avoir des gens très investis et aussi pensent aux autres. Hein, c'est pas,
mais, oui, bien sûr, c'est pas global.
Mais c'est vrai que nous, dans chaque décision, on doit se dire, tiens, qu'est-ce que ça impacte pour l'ensemble de la vie collective si je prends telle ou telle décision. Alors parfois, on dit non, mais bon, il y a aussi des études qui montrent que les équipes acceptent aussi quand on dit non. Voilà, ce que les gens vivent finalement le plus mal, c'est quand on ne prend pas de décision.
D'accord.
En tout cas, pas rapidement.
Ouais. Après, peut-être que le reste, vous ne savez pas aussi. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont dire derrière votre dos.
Oui, mais après, ça va passer. Ce qu'ils détestent, c'est quand, et on le fait malheureusement, ça arrive. Hein, on est faillible aussi, hein, mais c'est quand on leur dit, écoute, je ne sais pas, je vais réfléchir.
Oui,
peut-être
tu auras
une nouvelle chaise dans 3 mois, mais je ne suis pas sûr. Et 3 mois plus tard, on n'en reparle pas, il ne se passe rien. Et ça c'est détestable.
Ouais, prendre une décision, bref. J'ai l'impression d'avoir été votre collègue en lisant cette semaine détaillée de votre quotidien de travail. Est-ce que c'est l'impression que vous souhaitiez pour les lecteurs ? Qu'ils se mettent à votre place.
C'était très important pour moi, je le dis là dans le passage que j'ai lu, de ne pas écrire ma vie. Ce n'est pas une autobiographie, même si l'ensemble des anecdotes qui sont dans ce livre ont été vécues par moi. Et donc c'est bien finalement mon parcours, mais ma vie, elle n'a aucun intérêt. Donc ce que je voulais, c'était écrire quelque chose avec suffisamment de distance pour que tout le monde puisse s'y reconnaître.
Tout à fait.
Après, j'ai pas du tout triché, c'est-à-dire que tout ce qui est raconté dans le livre, c'est du vécu. Et il se trouve, et c'est ce qui a fait le succès du livre, c'est que les gens se sont reconnus dedans, notamment les chefs d'entreprise ont dit, mais c'est ma vie que tu as écrit. Et puis on s'est aperçu que les salariés aussi, les gens, tous les collaborateurs se sont retrouvés dedans en disant, mais ouais, c'est ça que je suis en train de vivre. Tiens, d'ailleurs, moi j'en ai d'autres des années. Je vais t'en raconter. Et c'est ce qui a fait le succès, mais je suis content de ça parce que c'était. Je me suis dit, le risque quand tu racontes des choses qui sont que des expériences vécues par toi, c'est que tu sois trop dans l'introspection et que finalement personne puisse rentrer dedans et que ce soit inintéressant. Donc non, visiblement, si vous êtes rentré dedans, c'est
clair.
Que...
Mais à la fin, vous avez dû sentir, mais bon, peut-être que j'étais un peu trop égoïste, j'ai parlé trop de moi, mais on ne sait pas l'impact qu'on peut avoir, surtout au niveau des gens qui vous lisent. Il y a toujours quelqu'un qui sera forcément touché.
Un jour, on était dans un événement avec plein de chefs d'entreprise et je parle avec un mec, on parle des valeurs humanistes dans le travail, etc. Et il me dit, écoute, je t'entends parler, faut absolument que tu lises un livre, ça s'appelle Chronique d'un salaud de patron. Il était 3h du mat, on avait un peu picolé. Et il me dit, je lui dis, mais écoute, je sais plus comment je lui dis, mais il finit par comprendre que je l'ai lu, mais surtout je l'ai écrit. Et alors il me tombe dans les bras, il me dit, mec, t'as changé ma vie.
C'est ça.
T'as changé ma vie, merci. Et en fait, c'est assez prétentieux ce que je dis, mais enlevons ça, mais je veux dire, c'est... Il y avait vraiment la solitude et le premier mal du chef d'entreprise. Et en fait, ce genre de livre montre que non, on n'est pas seul, on vit tous la même chose. Encore une fois, je suis très heureux d'être chef d'entreprise. Mais il y a quand même beaucoup d'aberrations dans mon quotidien dont je me passerai largement. Et si ces aberrations étaient moins présentes, je suis convaincu que ma boîte serait plus performante. Et ça, en fait, il y a plein de chefs d'entreprise depuis la sortie du livre qui m'ont dit, mais je suis content, merci de m'avoir rappelé que en fait, j'étais pas tout seul.
Vous trouvez qu'il y a un manque de communication entre les dirigeants ?
Enfin,
du coup, vous avez monté un groupe, mais avant ça, il y a dû avoir un manque de communication quand même.
Certainement, mais pourquoi ? Parce que c'est pareil, quand je dis que les médias ne laissent pas assez de place à ces gens-là, c'est pas que de leur faute, c'est aussi parce qu'on ne prend pas le temps de raconter nos belles histoires. Quand on est dirigeant d'une PME, on est né dans le guidon, on a un boulot de dingue. On a du mal à sortir de nos boîtes par moment. Et du coup, même entre nous, parfois, alors moi j'ai la chance de faire partie d'un certain nombre d'organisations dans lesquelles on discute beaucoup, notamment le Centre des jeunes dirigeants, qui est très impliqué sur la défense d'entreprises humanistes, par exemple, où on parle, on échange sur nos problématiques avec nos pairs, mais beaucoup ne le font pas.
Ouais. Est-ce que vous souhaitez faire peur aux futurs entrepreneurs ? Car je pense qu'avec ce livre, c'est réussi. Hein.
Non,
entre galères administratives et perte de vie personnelle, sans parler l'hygiène de vie, c'est bien vu. Hein.
Non, vraiment.
Il faut avoir les reins solides, vous voulez dire.
Vraiment pas. vraiment pas. C'est justement... Mais c'était une vraie question quand j'ai sorti ce livre.
Ouais.
Moi, je suis très impliqué justement pour la sensibilisation à l'entrepreneuriat, notamment auprès des jeunes.
Ouais.
Je suis convaincu que l'entrepreneuriat est une formidable façon de s'accomplir.
Tout à fait.
On a des rêves, on a un talent, on a envie de faire des choses. Ouais. Et en fait, quand on entreprend, on apprend beaucoup.
Tellement.
Beaucoup sur soi-même, d'abord. On apprend aussi à faire des choses techniquement. On apprend d'abord sur soi, on prend beaucoup confiance, on est très fier quand ça marche, on a une vraie liberté. Donc, je suis convaincu que c'est juste une expérience extraordinaire. Maintenant, c'est vrai que j'ai voulu mettre en avant aussi un certain nombre encore une fois, d'aberrations, de problématiques qui doivent absolument avancer.
Oui.
On nous reproche beaucoup en France d'avoir des trop petites entreprises, mais elles seront plus grandes le jour où on pourra se consacrer, nous, à des choses pour lesquelles on est bon.
Ouais.
Or, on est confronté 80% de nos journées à des choses pour lesquelles on n'est pas forcément compétent.
Oui,
quoi.
On le remarque en vous lisant d'ailleurs.
Donc, je veux surtout pas dégoûter, j'espère pas, mais en revanche, c'est une expérience. Voilà, donc peut-être faire gagner du temps, au contraire.
Moi, je pense que c'est une bonne chose, parce que justement, beaucoup d'entrepreneurs voient l'aspect positif, enfin, un certain aspect positif de l'entrepreneuriat. Oui, je veux gagner de l'argent, oui, je veux être boss, ça fait plaisir d'être boss. Mais c'est vrai qu'en lisant ce livre, on a tous les aspects, on se dit, ok, il y a ça, est-ce que j'ai les reins solides, est-ce que je pourrais gérer ça, est-ce que je pourrais gérer l'administratif, du coup. Et c'est bien, ça permet de bien réfléchir à son projet aussi. Hein.
Oui, il faut être prêt à ça, en tout cas. Moi, j'ai découvert que finalement, mon quotidien était plus proche de celui d'un entrepreneur qui avait une entreprise de plomberie que peut-être celui d'un salarié d'une autre agence ou d'une autre maison, d'une autre agence de presse, d'une autre agence de communication, ce qui est mon métier. Donc finalement, en fait, il faut juste être prêt à ce que quand on est chef d'entreprise, on a tout un tas de choses dans notre quotidien qu'on n'avait pas forcément anticipé. Moi, j'ai repris l'entreprise dans laquelle je travaillais. Donc ça faisait 8 ans que je bossais dans cette boîte. Mm-hmm. J'ai repris du jour au lendemain.
Mm-hmm.
Le jour où je suis devenu... Je pensais en fait que mon quotidien serait le même qu'avant.
Ouais.
Simplement, je prendrais quelques décisions de plus. Et en fait, pas du tout. Mon métier a changé.
Totalement.
Et je suis devenu... Mon métier, c'est d'être entrepreneur.
Mmh.
Et oui, ça, faut y être prêt. C'est ce que je raconte un petit peu. Mais encore une fois, j'insiste. Aujourd'hui, je suis avec vous, là, maintenant, au milieu de la journée. J'étais ce matin à un salon. Cet après-midi, je vais faire le cacou à l'Elysée. Et j'ai demandé à personne l'autorisation.
Ouais, ouais.
Et ça, c'est quand même génial.
Ouais, c'est cool. Petite parenthèse, vous mangez mieux ou pas? Parce que les Grecs, les pizzas, les McDo, ça aide pas à garder une bonne hygiène de vie professionnelle et mentale.
J'aurais tendance à dire oui, mais hier, il y a eu un petit truc sur Facebook et je vois que j'étais nommé. Et en fait, c'est un truc, c'était à qui vous fait penser cette image? C'était des hamburgers dans tous les sens. Et j'ai été tagué par 3 personnes.
Oh, waouh.
Je dois avoir encore un peu de boulot au niveau nutrition. Mais enfin, je suis quand même très, ceci dit, très sensible à ces thématiques de la nutrition.
Ouais, ouais, parce que justement, est-ce que vous avez réalisé que l'hygiène de vie était aussi importante que d'exécuter au travail? Parce que c'est un tout, hein.
Ouais, alors je caricature un peu dans ce livre. Oui. C'est vrai que je mange à peu près un kebab et un McDo tous les jours. Mais
c'était une semaine difficile aussi.
C'était une semaine difficile quand même.
Ouais.
Attendez, vous l'avez lu,
plaisir.
On est fatigué à la fin de la semaine.
Ah,
je mange dans ma bagnole. Non, heureusement, j'ai une grande chance dans ma vie, c'est que je partage donc ma vie entre Paris et le sud-ouest, mm-hmm. Gers et le Lot-et-Garonne.
Mm-hmm.
Et donc j'habite quand même dans un des départements où il fait le plus bon vivre et le plus bon manger.
Ouais.
Accessoirement, c'est le pays du foie gras, du canard.
Ouais.
Alors, c'est pas forcément très diététique, mais on mange bien quand même.
Oui.
Voilà.
Oui, mais on sent que c'est pas vous le faites pas par plaisir, vous ne goinfrez pas, c'est juste parce que vous n'avez pas le temps, etc., etc.
Ouais, j'ai voulu montrer ça. Puis encore une fois, on n'a pas toujours, c'est vrai, on n'a pas toujours le temps de prendre soin de nous au milieu de nos journées.
Tout à fait.
C'est une réalité.
Vous avez associé donc dans Chronique d'un salaud patron vos journées de travail, réalité entrepreneuriale et travers du système, ce qui permet d'avoir une certaine conception du monde du travail. Mais peut-on dire que votre faiblesse en tant que dirigeant a été l'organisation, car vous avez un quotidien d'homme robot au bout du compte, hein.
Je sais pas, en même temps pour faire plein de choses,
cette semaine,
il faut être super organisé. En tout cas, ce que j'ai voulu montrer, oui, c'est aborder un vrai fait de société qui est important. On parle de relance de l'emploi, donc on parle de quotidien. Les entreprises sont portées par des chefs d'entreprise au départ, donc on parle de ces gens-là. J'ai voulu aborder ce fait de société hyper important et complètement central par l'anecdotique et par l'humour. C'était vraiment
vrai
ça que j'ai choisi. Donc j'ai voulu faire rire, pas faire pleurer,
parce
que l'humour est pour moi le meilleur moyen de faire passer des messages. Et puis... et puis l'anecdote à chaque fois comme prétexte pour après aborder un sujet de société. Je sais pas, il y a une certaine naïveté en tout cas dans mon positionnement dans ce livre, ça c'est vrai. J'ai voulu le montrer. J'ai voulu montrer qu'un chef d'entreprise... moi j'étais pas prêt quoi, vraiment. J'étais pas prêt quand je suis devenu patron, je suis très sincère là-dedans. Et je suis convaincu que je suis complètement incompétent sur un certain nombre de sujets qui pourtant jalonnent mon quotidien.
Ouais.
Et je suis très bon sur d'autres choses, mais j'y passe pas assez de temps. Voilà. Donc dans ce livre, il y a plein de problématiques complètement ubuesques. On en rit bien sûr, mais devant lesquels je me retrouve un peu à poil. Ça, j'ai voulu le dire. Donc, ouais. Cette naïveté, sans doute, nous fait perdre du temps. Et notamment, il y a une journée de recrutement.
Oui, tout à fait.
Voilà, ouais, j'ai démarré ma première journée de recrutement. J'ai voulu être très, très gentil parce que j'avais conscience du stress que ça peut être pour quelqu'un de passer un entretien d'embauche. Ouais. À la fin de la journée, j'avais rien appris sur les gens, mais moi, j'avais l'impression d'avoir passé 18 entretiens d'embauche.
Est-ce que vous trouvez justement que vous êtes trop gentil? Parce que j'ai l'impression que vous êtes super cool.
Non, je le revendique, on me dit souvent. Ouais. C'est un mot en France compliqué, gentil. Quand on va vous voir et qu'on te dit tiens, t'es gentil, je suis pas sûr qu'il faille bien le prendre en fait.
Ah bon?
Mais moi, il y a des gens qui ont écrit là-dessus. Moi, je suis convaincu que la gentillesse, notamment en entreprise, a sa place.
Tout à fait.
Et alors, de temps en temps, on se fait un peu marcher dessus.
Mais aussi.
Ouais, on est obligé par moment.
Des fois, quand je lisais la partie justement en recrutement, je me suis dit, mais j'aurais jamais laissé cette fille monter, quoi. Mmh. Je me dis, partez tout de suite, c'est bon, quoi.
Oui, il y a ça, il y a eu. Vous avez une gamine qui se pointe avec ses parents. Une gamine, pardon, elle a 19 ans, ouais. Qui se pointe avec ses parents dans la salle et où j'ai une jeune femme qui vient avec son conjoint.
C'est
j'ai
clair.
Jamais osé le faire sortir.
Ouais.
C'est vrai que maintenant, sans doute, je le ferai
bien
sortir.
Bien sûr, c'est ça.
Ou en tout cas, je trouve ça en même temps, c'est curieux, je suis curieux de voir ce que ça peut donner quand
ouais,
un conjoint
aussi,
dans
ouais.
la salle. Pourquoi
vous
pas.
Vous gagnerez du temps, du coup.
Voilà. Bah écoutez, en tout cas, en l'occurrence, la fille dont je parle n'a pas été embauchée à cause de ça.
Ouais.
Parce qu'il était très peu avenant et on s'est dit, tiens, mais le jour où j'ai un problème avec elle, il va venir me mettre son poing dans la gueule.
C'est
quoi.
Ça.
Donc,
on
l'a pas prise à cause de ça.
Ouais.
Mais oui, une certaine naïveté, certainement, en tout cas. Mais je la revendique toujours.
Mm-hmm.
Mais je pense que j'espère être toujours quelqu'un de gentil.
Ouais.
C'est important.
Aussi. Vous ne trouvez pas que c'est ce qui cause une mauvaise image du travail? Vous savez, la mauvaise organisation des dirigeants, vous n'êtes pas le seul, les professionnels. J'ai des amis qui sont dirigeants et ils font n'importe quoi, qui conduit à des journées chaotiques aussi, mais à devenir qu'exécutants au travail. Sans aucune réflexion sur nos journées et au rejet de devenir dirigeant de certaines personnes aussi.
Bon, en tout cas.
On peut travailler quelque chose de positif. Hein.
Le manque d'organisation, la désorganisation dans l'entreprise et le manque de communication font partie des premiers reproches qu'on fait aux dirigeants, notamment dans les petites boîtes.
Ouais.
Après, c'est pas simple quand on est de l'autre côté. Donc, moi, je pense que vous auriez mes équipes devant vous, ils vous diraient ça.
Mm-hmm.
Ils vous diraient, ouais, parfois c'est le bordel, souvent c'est le bordel et on sait pas trop, il y a pas assez de bonne communication. Je pense qu'on vous le dirait.
Ouais.
Et en même temps, quand on est de l'autre côté, c'est pas simple.
Mm-hmm.
Parce que. L'organisation, elle doit se travailler tous les jours.
Ouais, c'est vrai.
Et en fait, nous, notre job de dirigeant, c'est de piloter une stratégie et de développer.
Ouais.
Et donc, on ne peut pas être toujours dans le quotidien.
Ouais.
Donc, il faut qu'on délègue cette organisation-là. Et finalement, c'est à nos équipes qu'on le délègue, qui elles-mêmes sont dans la production et n'ont pas forcément le temps.
Mmh.
Et puis, tous les jours, c'est remis en cause. Moi, je perds un client ce matin.
Ouais,
et
ouais.
Demain, j'organise un client. Tout change.
Ouais. Ouais, c'est vrai.
Et en fait, c'est tout le temps.
Ouais.
Dans une PME, c'est tout le temps.
Ouais.
Donc, c'est... Et puis si vous allez à l'inverse parler dans les très grands groupes, les gens vont vous dire c'est beaucoup trop rigide.
Ouais.
C'est quand même finalement le bordel aussi, c'est trop rigide, je suis dans une case, je sais pas si ma case a de l'importance pour quelqu'un au-dessus de moi. Bon, donc je suis pas sûr que le modèle idéal il existe.
Ouais. Moi j'ai une technique parce que je suis une maniaque de l'organisation parce que je trouve que ça a son importance en tant que dirigeant d'entreprise, mais j'ai trouvé une technique, c'est que d'évaluer chaque mois mon organisation passée. Et chaque semaine, faire le point sur une meilleure organisation. C'est clair que tous les jours, il y a des choses à organiser, mais le côté hebdo et mensuel, ça aide beaucoup. Petit
vous
conseil.
Vous évaluez comment?
Je regarde mon planning.
C'est vous?
Voilà, exactement. Je me dis, qu'est-ce que j'ai réussi à faire et à ne pas faire? Qu'est-ce que j'ai mal organisé? Peut-être que j'ai trop rajouté et j'ai pas pu gérer. Parce qu'à un moment donné, on se déçoit et on se dit, peut-être que c'est parce que j'ai mal organisé que j'étais déçu de moi-même. Et puis, le mois, c'est de me dire, OK, j'ai atteint tel objectif, comment je peux faire mieux le mois prochain? C'est pas faire plus, mais mieux, en fait.
Vous faites quelque chose de très important qui n'est pas évident et qui n'est pas automatique, c'est de prendre de la hauteur ou du recul faites.
Ouais.
Et c'est ça, quand vous posez cette question-là, vous prenez du recul et vous dites, tiens, qu'est-ce que je pourrais mieux faire ou en étant plus heureuse, parce que ça implique votre vie privée aussi,
c'est ça,
etc.
Exactement.
Et ça, c'est hyper important. Et ça, mais bien sûr, et j'en parle, mais la difficulté de concilier sa vie privée et sa vie professionnelle, c'est une des premières difficultés des chefs d'entreprise en France.
Tout à fait.
Parce que c'est très lié. Hein.
Ouais.
Quand on bosse 15 heures par jour, à un moment donné, ça implique quelque chose.
C'est
quand
clair,
même.
C'est clair.
Voilà.
Vous avez une secrétaire, mais vous n'avez pas d'assistante. Vous y pensez ou pas? Ou
assistant. Moi, c'est un assistant, d'ailleurs, c'est un garçon, mais qui a évolué maintenant. Je n'ai plus personne. C'est un vrai problème.
Zut.
C'est un vrai problème, ça. Donc, mais moi, j'ai trouvé une solution aussi, ceci étant.
Ouais.
C'est que je suis sorti de ma boîte vachement en fait, donc ils se débrouillent sans moi, moins ils me voient, mieux ils se portent, je crois.
C'est vrai?
Oh. Donc je suis toujours très impliqué, mais néanmoins toute la partie production, j'ai quelqu'un qui gère ça.
D'accord.
Enfin, on a un comité de direction, on est plusieurs d'ailleurs, moi j'ai délégué, j'ai énormément délégué.
Ah, c'est ça.
Et ça me permet de me positionner là où j'ai une vraie valeur ajoutée pour la boîte.
Ouais, voilà. Ça aussi c'est de la réflexion que vous avez dû faire.
J'avais pas trop le choix.
C'est ça. Page 67, vous faites une bonne remarque et on le note dans vos divers échanges téléphoniques avec le super standardiste de la communauté des communes, le manque du humanisation dans les échanges avec les administrations et dans le courrier rapport de l'inspecteur du travail, le manque de notes positives aussi contre la mise en avant des points négatifs. C'est un problème, je remarque, mais pourquoi selon vous, ce qui tient du monde du travail, il y a quelque chose de négatif dans tout, hein?
Ça, parce qu'il y a des gens qui se battent pour ça. Il y a quand même des gens.
Ah, il faut que ça soit.
Ah, y a clairement, quand j'ai fait beaucoup de médias ces dernières années, les couloirs des médias sont remplis de gens qui ont intérêt à faire du French bashing d'abord, à dire que la France va mal et à dire tout ce qui va mal et que travail, c'est tribalium, ça veut dire torture. Il y a plein de gens dont c'est le fond de commerce quand même.
Ah,
donc
ouais.
On se bat quand vous êtes un peu optimiste ou en tout cas quand vous vous battez pour des valeurs, vous battez contre des gens qui rappellent que tout va mal et que de toute façon, il y a vraiment des gens qui gagnent à ce que la lutte des classes soit très caricaturale. Ça, c'est hyper clair, notamment certains syndicats. Maintenant, ce qui me rend optimiste, c'est par exemple de voir que la CFDT elle est passée devant la CGT. Ça veut bien dire que les gens, ils ont envie d'autre chose quand même comme discours. Ils préfèrent un syndicat qui est un peu constructif aujourd'hui. Je parle de l'image nationale. Je ne critique pas tous les CGTistes de France. D'abord, je tiens à ma vie et à ma maison. Et puis non, je pense en plus pour côtoyer la CGT dans l'entreprise. Ils sont pour le coup assez constructifs, mais c'est dans l'image nationale qu'ils donnent. Voilà, donc oui, on se bat contre ça. Et pour parler de l'administration, on a vraiment parfois l'impression de ne pas parler la même langue. Vous avez cité deux exemples, celui de l'inspection du travail. Moi, j'étais surpris parce que ça s'était très bien passé.
Oui,
c'est quelqu'un de très sympa qui est venu dans ma boîte, qui, pour le coup, aurait pu nous faire des reproches, a plutôt fait beaucoup de compliments quand il est venu. Bon, on l'a bien reçu aussi, etc. Mais... Et c'est vrai que dans son compte-rendu, on a finalement ce qui ne va pas et aucun mot sympa. Je dis ça avec humour, mais est-ce qu'il n'y aurait pas de la place? Est-ce que ça coûte vraiment cher de rajouter une ligne pour dire merci pour votre accueil
c'est
ou tiens,
clair.
C'était très sympa, bravo. Enfin, nous, ça nous fait vachement de bien
mais
quand on est
reconnu. C'était une bonne remarque, je me suis dit, mais c'est vrai en plus.
Jamais, ça n'existe pas et pourtant, je ne pense pas que ça prenne beaucoup de temps et que ça coûte beaucoup d'argent. Et puis, vous donnez l'autre exemple. Alors, la communauté de communes, je ne raconte pas l'histoire, mais elle est juste totalement aberrante. Bon, j'ai eu d'autres exemples, une fois à l'URSSAF, où on me dit, mais monsieur, ça ne sert à rien de prévoir. Vous êtes chef d'entreprise, vous venez pour essayer de prévoir l'avenir et essayer de vous préparer à une zone de risque, hein, parce que c'était ça l'histoire.
Ouais.
Et on me dit, monsieur, ça ne sert à rien de prévoir. Vous êtes chef d'entreprise, votre job, c'est de prévoir, c'est d'anticiper. Donc voilà, et là, on se dit, mais ces gens-là, pourtant, travaillent toute la journée avec des entrepreneurs.
C'est ça.
Et ils comprennent pas, quoi.
Ouais.
Et ouais, ça, je pense pas que ce soit une question de mauvaise volonté, mais.
C'est ce côté. Comment dire, robots, des tâches, on exécute, on n'a aucune...
Oui, alors,
pareil.
Pourtant, ce sont des hommes et des femmes, hein, donc je ne pense pas que ce soit des robots, mais en tout cas pas aujourd'hui, pas encore. Peut-être demain, mais ils sont trop loin, ils comprennent... Ils n'ont pas d'expérience. Le problème, c'est de rapprocher les mondes.
Et c'est marrant parce que vous parlez de... Quand vous l'avez vu, cet homme-là, c'était plutôt un bon échange. C'est pour ça que moi, je prends souvent mon téléphone. Parce que là, du coup, quand on écrit...
Oui, c'est vrai. Vous avez raison.
Les personnes sont totalement différentes. La CIPAV, quand on les appelle, c'est plus les mêmes personnes par écrit.
Non, mais c'est l'impact des mots. C'est vrai que des mots couchés sur le papier ou sur un écran, parfois, est très dur.
Ouais.
Alors que finalement, quand on met un ton dans la voix, ça donne une autre signification. Vous avez raison.
Peut-être qu'ils ont aussi des mots à remplir dans leur document.
En tout cas, on a intérêt à rapprocher les mondes,
à
faire en sorte que les gens qui bossent en administration aient peut-être eu une expérience d'entreprise à un moment donné et vice-versa.
C'est vrai, hein.
Et on se comprendra mieux.
Ouais. Vous considérez-vous comme représentant des dirigeants d'entreprise en France? Car vous êtes plutôt
actif
dans
ce domaine. C'est en tout cas ce qui s'est passé, je pense. C'est que j'ai été... Ouais, je ne l'avais pas vu. Hein. Quand j'ai fait ce livre, d'abord, vous savez, écrire, c'est un exutoire. Donc, j'avais envie de raconter. On a une histoire particulière. On a sauvé l'entreprise de manière très originale. Donc ça aussi c'est une vraie note d'optimiste. On était complètement mort, on était en mort clinique, on n'avait plus de banque, plus d'experts comptables, etc. On l'a sauvé vraiment de manière originale, je raconte pas comment, pas spoiler le livre. Donc il y avait ça, et puis après c'est vrai que ça très vite eu des retours médias, en fait ce sont les médias qui ont fait le succès du bouquin très vite, et puis après les chefs d'entreprise qui se sont reconnus dedans et qui ont quelque part ont fait de moi un des porte-parole, en tout cas un des porte-parole des patrons de PME et de TPE qui en avait sans doute besoin. Bah oui, parce que je me bats pour ce en quoi je crois.
Ouais.
Voilà.
Vous avez trouvé une cause, du coup.
En tout cas, sur laquelle je pense être légitime, parce que c'est mon quotidien. Je suis entrepreneur, toujours. J'ai même créé une deuxième boîte, donc C'est vraiment mon job, c'est mon quotidien, c'est ce qui fait que je peux parler de ce qu'est l'entrepreneuriat. Je suis pas forcément là pour le défendre ou quoi que ce soit, je réponds aux questions qu'on me pose. Mais j'insiste, je suis convaincu que les gens qui dirigent, qui créent aujourd'hui des entreprises sont vraiment des héros et que ce sont ces gens-là qu'on doit absolument porter, promouvoir, défendre, aider. Si on les aide, on sera dans une spirale hyper positive.
Je suis tout à fait d'accord. Vous tenez même un blog, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas été mis à jour, hein, Salaud de Patron.
Ouais, mais parce qu'en fait.
.fr.
Donc j'ai salauddepatron.fr, exactement. Et puis j'ai
vous faites des conférences aussi.
J'ai un autre site sur julienleclerc.fr. Parce que maintenant, j'essaye de. Avant, en fait, les gens ne me connaissaient même pas par mon nom. C'était Salaud de Patron.
Non.
Ce qui était assez volontaire au début, parce qu'en fait, il y a un réalisateur assez connu qui s'appelle comme moi, et qui a sorti, quand j'ai sorti mon premier livre, il sortait un film, il était sur le JT de TF1, donc c'était un peu compliqué. Donc j'ai vraiment tout fait pour m'effacer derrière Salaud de Patron. Aujourd'hui, je prépare un autre bouquin qui s'appelle Rendez-vous avec la France qui bouge. J'interviens dans pas mal de médias sur d'autres sujets. Moi, je suis président d'une association qui se bat sur la jeunesse, parce que j'ai été éducateur auprès des jeunes pendant 10 ans. Et j'ai envie de pas être que Salaud de Patron. C'est pour ça que mon blog est peut-être un peu moins mis à jour, mais enfin, il est toujours actif dessus. Je fais beaucoup de conférences, vous l'avez dit, auprès d'organisations patronales, dans des écoles. Quand les projets me parlent, j'y vais.
Vous devez bien vous entendre avec Philippe Bloch, non ?
Je l'aime bien.
Vous avez le même état d'esprit.
Il est très drôle, Philippe. Il est vraiment très drôle. Je ne sais pas si vous l'avez vu en conférence. Il est très drôle et il y a du fond. Il est légitime aussi. Il a quand même un parcours derrière lui. Et j'aime beaucoup l'optimisme qu'il porte.
Parce que son livre Tout va mal, je vais bien. On l'a eu reçu dans l'émission aussi. Un certain lien avec votre livre.
D'ailleurs, on a accroché quand on s'est rencontrés un peu après, on a accroché très vite. J'aime bien quand il dit qu'il en a marre qu'on dise que tout est petit en France, c'est drôle et c'est vrai. Il y a beaucoup d'autodérision dans ce qu'il fait, enfin voilà, c'est super. Et c'est un optimiste. Mais il y a des gens comme lui, il y a des Philippe Gabillier, il y a des gens qui portent une vision. Et puis vous avez cité tout à l'heure les entrepreneurs du digital, des Guillaume Gibault du Slip français, des Céline Lazorte de Litchi, enfin il y a des gens qui aujourd'hui portent ou des Olivier Mathieu de Presse Ministère qui portent des valeurs.
Vous avez rendez-vous donc à l'Élysée en tant que représentant des entrepreneurs, enfin des dirigeants d'entreprise ou pour votre société?
À l'Élysée tout court, je vais voir le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Parce que donc, je suis président d'une association assez géniale qui s'appelle Entreprendre pour apprendre, qui promeut l'entrepreneuriat et pas que, qui vraiment se bat pour que les jeunes croient en eux et soient convaincus qu'ils ont une place dans la société. Vous savez, le 8 mai 2017, le lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron, il y a des gens qui sont allés manifester dans la rue et qui portaient une grande banderole. Nous ne serons jamais des winners connards. Alors laissons passer l'insulte, mais sur le reste, nous ne serons jamais des winners. Ça veut dire nous serons toujours des losers. Et moi, ça, je peux pas. Et on peut pas. On n'est pas en Birmanie ici, on est en France.
C'est clair.
Il y a des fractures immenses, évidemment. Il y a des gens qui n'ont pas de toit, il y a des gens qui n'ont pas de quoi bouffer. Il y a des vraies fractures monstrueuses. Mais néanmoins, on est en France et en France, on a le droit de croire en soi et on a le droit de croire qu'on peut s'en sortir. On a le droit de croire en ses rêves. Et je me bats pour ça. Cette association se bat pour ça. Et donc, c'est au titre de cette association que je vais à l'Élysée tout à l'heure.
Et puis on a les moyens aussi par rapport à d'autres pays où il y a moins
d'aides, moyens, etc. Il y a beaucoup d'acteurs qui se battent aussi pour t'aider. Si tu penses un jour que tu n'as pas d'avenir et que tu es capable de rien, il y a beaucoup d'acteurs qui sont autour de toi pour essayer de te faire changer d'avis et t'aider. Et en fait, ça encore, il y a plein de gens qui n'ont pas intérêt à ce que ça sache quoi, et ce que ça se dise, il faut le dire.
Il faudrait qu'ils aillent faire un petit tour aux États-Unis, ils verront la différence.
C'est vrai que bien-être aide. Quand on est dans une famille aisée, etc., ça aide, bien sûr, évidemment. Mais mal-naître ne condamne pas, en France.
C'est ça, aussi.
Il y a beaucoup d'exemples de réussite de gens qui sont mal-nés.
Vous êtes donc vous disiez tout à l'heure, vous êtes journaliste devenu entrepreneur par accident, on peut dire par accident ?
Ma maman est tombée malade, et donc elle dirigeait la boîte dans laquelle je travaillais. Du jour au lendemain, elle m'a appelé, elle m'a dit voilà, je pars en chimio, puisque c'est un cancer. Je pars en chimio, et donc j'arrête quoi. Donc c'est juste, vous êtes le lundi, et le mardi, elle est plus là. Donc il faut panique, réunion de crise, et là, qui est-ce qui s'y colle, comment on fait? Et puis on s'y colle à plusieurs au début, puis après, à un moment donné, il y en a un qui se dégage. Mais maintenant elle va mieux, donc on a la chance de rebosser ensemble. C'était par accident, je sais pas, je pense que j'avais ça en moi quand même et que je l'aurais fait à un moment donné. Mais d'ailleurs là j'ai créé une entreprise complètement, celle-ci je l'avais reprise. Mais c'était en tout cas pas attendu, pas à ce moment-là.
Donc c'était Compress et aujourd'hui, quelle est votre entreprise ?
Donc je dirige toujours l'agence Compress.
Même si de loin.
Ouais, enfin, c'est mon job, hein, c'est ce qui est, quand même. Mais disons que je suis plus dans la production, je suis plutôt dans le développement. Et j'ai lancé cet été une maison d'édition qui s'appelle Yaka Books, Y-A-K-A Books, qui fait des livres neufs et inédits à 2 euros.
Voilà, à
c'est
de...
une maison d'édition qui promeut la lecture. On fait de la fiction, des romans pour les tout-petits et pour les adultes. Enfin, de tous les âges, tous les goûts, sur de la fiction, voilà, des albums jeunesse, des mini-romans, des romans à 2 euros.
Génial. J'allais vous demander si vous regrettez, je pense pas, non.
C'est génial.
Les rênes, du coup.
Faut rigoler.
Est-ce que vous auriez changé quelque chose sur vos décisions du début?
Ah, certainement, il y a plein de, on fait plein d'erreurs. Voilà, oui, bien sûr. Évidemment, je sais pas concrètement. Je sais pas. En tout cas, moi, je me rappelle que j'ai pris au moins 7-8 mois à comprendre que j'étais chef d'entreprise.
J'ai
à bien me positionner, à justement sortir de la production. Un jour, je prends un truc dans la tête, c'est quelqu'un qui me dit. Bon, c'est quoi ta stratégie? C'est un grand mot, stratégie. T'es gentil. Ok. C'est quoi ta boîte dans un an? Tu veux l'amener où? Je dis, mais dans un an, c'est demain, un an. Tu rigoles.
Exact.
Demain, ce sera pareil. Bon, ok, dans 3 ans. Ah, je sais pas, on pourrait peut-être faire ça. Ok, tu fais un peu comme vous.
Ouais.
Et tu fais quoi pour ça?
Bah,
rien. Bah, ouais, mais Julien, si c'est pas toi qui le fais, personne va le faire à ta place.
C'est très business plan, hein.
Oui, mais c'est en même temps, je pris dans la tronche que c'était mon rôle à un moment donné de dire, ok, je veux emmener mon entreprise à tel endroit dans 3 ans, ce qui est pas très loin et en même temps nous paraît loin. Et si moi je m'en occupe pas, personne
ne va le faire.
Personne, c'est mon rôle. Et donc il faut du coup se positionner au bon endroit et qu'un certain nombre de mes attributions soient déléguées à des gens qui seront pas moins bons que moi.
C'est ça.
Et moi, ça me libère du temps pour faire ce qu'il faut.
Que dit maman? Fière?
J'imagine, c'est toujours difficile pour des parents de le dire, enfin souvent.
Ah bon?
C'était pas simple, hein. Après elle est revenue, il fallait qu'elle retrouve sa place aussi. On est très proches d'un point de vue personnel, donc ça se passe très bien. Et d'un point de vue pro, il fallait que chacun trouve sa place. Maintenant, j'étais trop content qu'elle revienne.
Ce que vous êtes devenu.
Alors ouais, et puis là, elle vient de sortir un livre aussi qui n'a rien à voir, qui est sur la cuisine et l'histoire.
D'accord.
Ça s'appelle La Table du Roi Soleil. Et donc là, on vit une histoire d'auteur ensemble, c'est chouette.
C'est ça, vraie relation, ça c'est cool. Qu'est-ce qu'il faudrait, même si on sait en y évoluant qu'il y a beaucoup de choses à changer, pour permettre aux Français dirigeants d'entreprise de mieux vivre leur quotidien de travail, créer sans être abattu par l'aspect administratif?
Échanger, vous l'avez dit, on a dit les choses, hein. Échanger, prendre du recul, ne pas prendre les choses contre soi, sortir de l'ego en permanence,
c'est
aussi
ça, ouais.
Sortir de la position égotique, c'est-à-dire que quand un salarié vous attaque au prud'homme, c'est pas contre vous. Faut sortir de ça. Quand vous avez une administration vous emmerde, c'est pas contre vous. Quand un client s'en va, c'est pas contre vous.
C'est ça.
Voilà. En revanche, c'est à partir du moment où on prend pas les choses en perso, d'abord on le vit mieux, on dort mieux, on prend soin de soi.
C'est vrai.
Et du coup, on peut être dans la bonne réflexion, c'est ok, comment je peux éviter ça à l'avenir et comment je peux être meilleur. C'est ça mon conseil. Prenez soin de vous, sortez un peu de l'ego, échangez. Il y a plein de gens qui sont passés par là, qui ont eu les mêmes problèmes que vous et qui les ont réglés.
C'est
donc parlez avec eux parce que vous gagnerez du temps et de l'énergie.
Vous verrez-vous en politique pour aider les dirigeants? Vous y rapprochez?
Je sais pas, la politique en tout cas au sens strict du terme m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire que la vie de la cité m'intéresse beaucoup. Moi je suis convaincu qu'il y a aujourd'hui plein de moyens de faire avancer des causes et de faire avancer le pays autre qu'un engagement politique,
c'est
au
vrai.
Sens où vous l'entendez.
Vous aurez plus à
donc j'ai un gros engagement associatif aujourd'hui, je suis très actif dans 2 associations. Voilà, c'est une sorte d'engagement politique. Après, un engagement partisan, je ne sais pas, si un jour j'ai une vraie conviction et qu'on me demande, mais il faudra vraiment que je m'y retrouve complètement. Après, moi j'aime beaucoup écrire des livres, j'ai envie d'avoir du temps pour ça aussi. Voilà. Si ça doit se faire, un jour ça se fera, mais par une vraie conviction. Voilà, j'ai trouvé ça en tout cas très intéressant ce qui s'est passé quand même, c'est vrai, en 2017 avec l'élection d'un candidat qui 3 ans avant était un inconnu total.
C'est clair.
C'était, sans prendre parti, c'était hyper intéressant quand même sociologiquement parlant. Mais je suis très engagé dans la vie de la cité en tout cas. Donc,
très bonne chose.
Voilà.
Combien de temps vous avez pris pour écrire ce livre? Parce que vous l'écriviez dans les transports. Comment vous organisez tout ça? Parce que vous aviez un planning chargé. Comment?
J'écris dans le train. J'ai vraiment ça, je le dis dans le bouquin. C'est pas pour rigoler, c'est vrai. Maintenant, on met 3 heures pour aller d'Agen à Paris. Avant, c'était 4h30 à l'époque. Donc, un aller-retour, c'était 9h. Donc, ça laissait du temps quand même. Comme le réseau est pourri, vous coupez votre téléphone, vous n'êtes pas joignable. Et du coup, vous avez du temps pour vous. Donc, j'écrivais. J'ai mis beaucoup de temps à l'écrire celui-là. Parce que je l'avais commencé en 2010, en sortie de crise, pour raconter un peu comment on, justement, s'en était sorti. Donc, il y a toute une partie du livre là-dessus.
Ouais.
Encore une fois, moi, ma boîte avait 1 million d'euros de fonds propres négatifs. Ça parlera à certains d'entre, d'entre vous quand j'ai repris. Et puis après, j'ai laissé tomber pendant 2 ans en me disant, écoute, c'est sympa, mais ça, pour le coup, c'est vraiment ton histoire et ça fait pas un bouquin. Mmh. Et puis derrière, je suis devenu chef d'entreprise. Et là, j'ai pris dans la tronche ce que c'était que le quotidien et je me suis dit, il y a de quoi faire un bouquin super drôle.
Ouais.
Et donc là, je l'ai continué, je l'ai terminé, il est sorti. Mmh. Et puis après, ben, on l'a repris pour le remettre à jour et pour rajouter toute une partie pour une sortie cette année en 2017.
Ouais.
Voilà, donc finalement celui-là j'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis du temps. Ouais.
Pourquoi vous acceptez encore des choses et comment vous faites pour vous organiser pour ceux qui aimeraient prendre votre exemple?
Alors j'accepte moins en moins de choses quand même. J'ai aujourd'hui deux boîtes et deux engagements associatifs plus mes livres, ça me semble assez suffisant.
Mm-hmm.
Et puis j'ajoute que je suis papa et que ça j'ai appris. Hein. Moi, après la sortie de ce livre, j'ai divorcé donc voilà, j'étais dedans. Hein.
Ouais.
Moi aussi j'ai eu du mal à protéger ma vie privée.
Ouais.
J'ai beaucoup appris et donc aujourd'hui je prends aussi beaucoup de temps pour mes enfants.
Ouais.
Donc, je fais quand même très attention aux engagements que je prends.
Ouais.
Ce qui fait qu'on peut le faire, c'est un, d'abord, c'est de se battre pour des valeurs qui ont du sens pour nous. Quand on se bat pour ces valeurs, on trouve du temps et de l'énergie.
C'est clair.
Ça, c'est la première chose. Mmh. Ensuite, elle se relie. Écrire des livres quand on est journaliste et qu'on a travaillé dans la presse magazine, c'est pas déconnant.
Mmh.
Créer une maison d'édition quand on a une agence qui fait des magazines à côté, c'est pas déconnant non plus.
Mmh.
Et puis me battre dans des associations qui sont vraiment sur le croire en soi et soit entrepreneur de ta vie. Ça a du lien, donc tout ça se relie très bien, quoi.
Ouais.
Voilà, c'est ce qui rend les choses possibles.
C'est
si
ça.
J'avais des activités qui n'avaient absolument aucun lien entre elles, ou si elles étaient sur des valeurs qui n'étaient pas les miennes, je ne pourrais jamais.
C'est clair. Possible. J'imagine que les entrepreneurs doivent être vos lecteurs principaux, mais quel type de personnes aimeriez-vous qu'ils lisent votre livre Chronique d'un salaud de patron?
Bah, il y a plein de lectorats, il y a des jeunes qui envisagent d'entreprendre, il y a beaucoup d'entrepreneurs, ça vous l'avez dit, qui se l'offrent, il y a beaucoup de gens qui l'offrent à leurs copains entrepreneurs. Et puis après, ce qui s'est passé de drôle, c'est que j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui les ont offerts à leurs salariés pour que les salariés aient conscience de ce qui les anime aussi, pour qu'ils aient conscience de ce qu'est leur quotidien.
C'est vrai.
Et à l'inverse, j'ai des salariés qui l'ont offert à leur patron, notamment parce qu'il y a quand même une grande partie sur le bien-être au travail et l'importance d'être un manager attentif.
C'est vrai. Hein.
Et en fait, là, j'ai même eu des salariés, c'était drôle, notamment sur le blog, parce que, qui en tout cas me disent, est-ce que vous pouvez le dédicacer? Surtout, dites pas de qui ça devient. Voilà. C'est-à-dire qu'eux considéraient que leur patron était vraiment un salaud et gagneraient à lire ce livre qui, quand même, est porteur de valeur.
Et puis, vous font signer en même temps.
Parce que je le dis, hein, moi, il y a des patrons, je pense que c'est 5% des chefs d'entreprise qui sont des enfoirés, ils existent, ils nous font beaucoup de mal.
Bien sûr.
Et c'est pas que les grands, hein, vraiment. Il y a des grands patrons qui sont des gens très bien, il y a des petits patrons qui sont des ordures.
Mmh.
Et un jour, j'ai un chef d'entreprise qui avait 70 salariés et qui me dit écoute, arrête de nous raconter ça, t'es gentil, mais un salarié, il fait ce qu'on lui dit de faire là où on lui dit de faire.
Waouh.
Écoute, bonne chance, mec.
Super, ok, d'accord.
Voilà, moi, je me bats contre ça aussi.
Et en politique, vous aimeriez que quelqu'un lise ce livre, Timosine, qui...
J'ai eu quelques retours quand même. Voilà, notamment, je sais pas, par exemple, je crois que François de Rugy, qui est président de l'Assemblée nationale aujourd'hui, l'a lu.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, je l'apporte chez... Emmanuel Macron, je ne sais pas s'il aura le temps de le lire.
Et au vice-président aussi Parce qu'il aura peut-être plus de temps.
Mais bon, en tout cas, je pense qu'il a pas mal tourné quand même, notamment auprès de députés, etc.
Il faudrait.
J'ai intégré des groupes de travail derrière avec des députés. Voilà, enfin, on essaye d'influer, notamment pour porter ces valeurs-là et cette vision-là de l'entreprise.
Ouais.
Je pense que ça avance un petit peu. Quand Emmanuel Macron, je ne sais pas s'il le fera, mais quand il envisage, par exemple, de faire en sorte que les chefs d'entreprise puissent bénéficier d'une protection sociale, c'est-à-dire puissent toucher le chômage si leur boîte se plante, c'est juste hyper important. Et là, on parle plutôt des PME. Donc, je trouve qu'on va quand même, on commence à faire de la place aux dirigeants de PME et de TPE. Pas forcément qu'Emmanuel Macron, c'est pas par parti. Je pense que ça avait commencé un petit peu avant, mais c'est très long.
D'accord.
Et pourtant essentiel.
Prochaine idée d'ouvrage, vous en avez parlé tout à l'heure.
Ouais, je sors un tout petit peu, je vais un peu plus loin que l'entrepreneuriat.
Mm-hmm.
J'ai sorti un roman aussi entre temps, j'ai sorti
Deux
salauds de patron et un roman.
Mm-hmm.
Et là, je reprends un essai, ça s'appelle Rendez-vous avec la France qui bouge, sort fin mars.
Mm-hmm.
L'idée, c'est de mettre en avant des actions citoyennes qui sont portées par des inconnus, des gens qui juste font que la France va beaucoup mieux que ce qu'on raconte souvent, qui ont trouvé une solution à une fracture de société en matière de logement, d'environnement, d'emploi, etc. Et qui. qui ont mis en place quelque chose juste d'incroyable, ouais. de génial. Ces gens qui, quand vous les entendez parler, quand vous les rencontrez, vous sortez avec une banane d'une oreille à l'autre et ouais. vous dites, mais quel joli pays, quoi. Ouais. Voilà. Et avec, au milieu de ça, l'éclairage de gens plus connus qui viennent, donc philosophes, sociologues, j'ai Thierry Marx, là, je vois Thierry Marx demain, des gens engagés, un peu plus connus, qui viennent donner leur vision de ce qu'est l'engagement citoyen.
Vous l'avez déjà fait un peu avec ce livre, à chaque jour, début de journée, vous avez toujours une petite phrase philosophique.
Oui, alors c'est des citations, hein, des citations de Churchill, je ne suis pas allé le rencontrer par exemple, mais là ce sont des gens pour le coup que je serais allé interviewer, mais le lien c'est l'optimisme. Ouais. Moi je veux qu'on... encore une fois, on n'est pas des losers à vie. Oui. On a tous des moments où on est des winners, à des moments où, au contraire, où on doute énormément. Oui. Moi, j'ai aussi connu des très bas, et on est très haut. Et globalement, si on se prend en main, on arrive quand même à avoir une vie qui ressemble à celle qu'on a envie d'avoir. Si on n'est pas heureux dans sa vie, on peut changer de pays, on peut changer de femme, changer de mari, changer de sexualité, changer de à peu près tout. Ouais. Changer de boulot, évidemment. Si vous considérez que votre patron est un vrai salopard et que ça vous bouffe la vie, mais barrez-vous, partez, partez vite.
Il y a des gens qui restent et puis préfèrent se plaindre.
Voilà, donc c'est pas facile, je le sais, bien sûr que c'est pas facile, mais vous pouvez le faire, on a le droit. Il y a des pays, ils ont pas le droit d'envisager ça. Donc faisons-le, et moi je suis très porteur de ça. Et c'est pareil, quand on est scandalisé par quelque chose, on a la place d'agir en France, de créer une assoce, de créer une entreprise,
de créer un blog.
De créer un. Ouais, mais aujourd'hui, vous avez raison, tout le monde peut créer son propre média.
Tout à fait.
On a tous une voix maintenant, on compte, les réseaux sociaux permettent ça.
C'est ça. Et le roman que vous avez sorti ?
Ça s'appelle L'homme qui ne voulait pas devenir président. C'était aux éditions Intervalle. C'est l'histoire d'un chômeur trentenaire, loser heureux, content de sa vie pépère, qui un jour va faire les fêtes de Bayonne en juillet avec ses copains, boit beaucoup trop et complètement bourré, il interrompt une star mondiale du rock et monte sur scène. Il se lance dans une violente critique du système politique et à la fin, il déclare sa candidature au présidentiel.
Wow, okay.
Le lendemain, il se rappelle absolument de rien parce qu'il a beaucoup trop bu. Sauf que Facebook se rappelle de tout.
C'est ça.
Et sa petite vie tranquille commence à partir un peu en live. Ça, c'est une comédie, c'est vraiment.
Sorti quand ?
Juste avant l'élection, en mars, fin mars 2017.
Ouais.
Voilà, il tourne pas mal, on le trouve encore facilement dans les
livres. Je ne sais pas comment vous faites pour faire tout ça. Dernière petite question, est-ce que vous avez eu le temps de lire Plaisir ?
Oui, je lis beaucoup. Je lis beaucoup, alors moi, je lis que des romans.
Ah, c'est vrai ?
Je ne devrais pas le dire. je pense que... quand je lis un essai, enfin c'est pas vrai, de temps en temps je lis un essai, en ce moment je lis un truc qui s'appelle Utopie réaliste qui a très très bien marché, qui est assez génial. J'ai lu les bouquins de Philippe Bloch par exemple aussi, mais globalement quand je lis un essai souvent j'ai l'impression de bosser en fait.
C'est ça
me détend pas. En tout cas j'aime les essais dans ce cas-là qui sont un peu romancés ou qui se lisent très vite. Mais sinon non, beaucoup de romans, mais j'ai des goûts très grand public en matière de lecture. Ça fait hurler des gens, mais ceci dit j'ai un style d'écriture qui passe pas de la grande littérature. Moi j'écris, j'ai un style d'écriture je pense très direct, assez journalistique sans doute, mais j'aime bien être efficace dans l'émotion très vite, voilà, mais je ne fais pas des phrases de Marcel Proust, mais j'aime bien lire Marc Lévy, j'aime bien Bernard Werber, j'aime beaucoup Dickers, là, voilà, qui a fait l'affaire Harry Kébert. Enfin, j'ai des. Qu'est-ce que je lis en ce moment je viens de finir le dernier Werber. Là,
d'accord. Voilà. Vous lisez à quel moment du coup ?
Le soir.
Avant de dormir ?
Ouais.
Ah,
ça m'endort.
Bonne...
C'est chaud.
Vous avez des astuces pour trouver le temps de lire, parce qu'il y a des gens qui disent j'ai pas le temps de lire.
Non, mais c'est pas vrai.
C'est
clair. Et puis en fait, on prend le temps. Mais on trouve le temps pour faire les choses qu'on aime.
Qu'on aime.
Moi, j'ai le temps de lire une histoire à mes gamins le soir.
Tout à fait.
J'ai le temps de lire un bouquin. J'ai le temps de. Il faut parce qu'une entreprise, notamment, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Hein, donc il faut tenir la distance. Et on tient pas la distance si on prend pas soin de soi.
Ouais. Merci beaucoup,
merci
Julien.
À vous.
Bonne visite à l'Élysée.
Merci.
Vous nous raconterez à la prochaine sortie de votre livre et on se dit à bientôt dans la même radio pour une prochaine émission de lecture.
À bientôt. MM Radio.